Bonjour à toutes et à tous, c'est Watchful et je reviens pour le DC Podcasters Classic numéro 14 et je ne suis pas seul. Je retrouve une équipe plus que complète cette semaine avec Blue.
Et salut Loulou.
Je suis également accompagné de My Plastic Bus.
Bonsoir tout le monde.
Bonjour, Plastic Frog.
Bonjour.
Et du fameux Clegane.
Bonjour, c'est quoi cette intro?
El Magnifico.
Ah bah c'est une intro parfaite qui marche du premier coup. Et d'ailleurs, je voulais... Et du coup, je voulais à la fois m'excuser pour ne pas avoir été là pendant le mois dernier et remercier Clegane d'avoir repris le rôle de présentateur pour entretenir les podcasts. Non, mais en vrai, je suis super content d'être venu parce que quand je vois le programme Access Série Télé, je me dis, on va se marrer. Entre Pennyworth, je suis même étonné qu'on parle pas de Bad Girl et j'ai envie de dire, on se garde ça pour le review dans 2-3 semaines. Deux semaines pour la date de sortie ou...
Bad Girl.
La sortie du podcast.
Bad Girl.
Batwoman, c'est pareil.
Ah, j'ai dit Bad Girl.
Oui.
Ah, bah ça... Non, Batwoman.
J'ai pas osé t'interrompre personnellement.
Mais... Non, non, mais, tu vois, l'introduction était tellement belle. Faut pas. Donc, on va commencer sans plus tarder avec les comics VF. Et c'était Just the Frog qui voulait nous parler des annonces d'Urban à la Paris Comic Con. Donc, Just, t'étais là-bas aux annonces d'Urban. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire et pourquoi est-ce que tu voudrais nous en parler?
Donc là-bas, il y a Urban qui a fait une conf de à peu près une heure pour parler de toutes ses sorties 2020. Il y en aura sûrement certaines autres, mais vraiment pas beaucoup. Ils ont vraiment lancé plein de titres. Il y a quatre grandes parties qui ont composé cette conférence. D'abord, un truc qu'ils ont appelé DC Confidential. C'est une ressortie de quatre grandes sagas qui ont marqué l'univers d'ici. Donc, je vais avoir besoin de vous pour raconter un peu ce que ça dit, parce que j'en ai lu aucun des quatre.
Ah bah alors, Clegane va pas mal t'aider.
Ouais, je pense. Il y a d'abord Green Lantern Emerald Twilight de Ron Martz et Daryl Banks.
Alors ça, c'est la transformation d'Al Jordan en Parallax. Mmh. Ah bah, en fait, en gros, c'est Al Jordan qui pète un câble, qui veut plus de pouvoir et qui se transforme en, entre guillemets, méchant.
C'est ça bien, ça.
En fait, si vous voulez, c'est un peu le Nightfall de Hal Jordan. Okay. C'est pas fameux, mais c'est marquant dans l'histoire. Et personnellement, c'est le genre enfin, moi, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Mais si vous êtes passionné de Green Lantern, c'est vraiment un arc à lire parce qu'en fait, il est marquant. Parce que la transformation de Hal Jordan en Parallax, c'est à comprendre parce que c'est aussi ce qui va initier... en fait... Là, c'est la transformation de Hal Jordan, Green Lantern, en Parallax. Et le départ de Geoff Jones, c'est le retour de Hal Jordan après avoir été Parallax.
Okay.
Donc, ça s'étale sur une grande période et ça, c'est un événement marquant. C'est pas du très, très bon comics, mais pour Green Lantern, c'est quand même un événement marquant.
Donc, je comprends que ça maintenant.
Attends, Black Plastic.
Je disais, c'est un récit historique et rien que pour ça, vaut la peine d'être lu. Même si effectivement c'est parfois un peu précipité et rapide sur beaucoup de choses, et que bon, il y a beaucoup de défauts, mais globalement ça reste quelque chose d'historique, quoi.
Oui, c'est ce que j'entendais par là. Donc vas-y, Just.
Ouais. Donc on passe au suivant. Le suivant, pour rester dans le vert, c'est Green Arrow cette fois-ci avec The Longbow Hunters de Mike Grell.
Alors c'est pour ça que je te disais, Clegane va pouvoir t'aider là-dessus.
Ouais.
C'est Clegane présenté.
Bah, tout à fait, c'est en fait Longbow Hunters, c'est la mini-série qui a été alors je sais plus trop si c'est DC qui a commandé à Magrel ou c'est Magrel qui a demandé à DC de le faire, je suis plus certain, mais bref. Et c'est trois numéros, si je dis pas de bêtises, qui sont très sombres, avec un Green Arrow qui a toujours perdu sa fortune, comme dans le run de le Green Lantern Green Arrow de Denis O'Neill, et qui va s'installer à Seattle avec Dina. Et à Seattle, il y a un tueur en série qui est au pair. Et donc, on a Magrel qui s'occupe du scénario et des dessins. Et il faut dire, c'est magnifique. L'histoire est assez sombre. Et c'est à lire. C'est pas du Green Arrow. Comment dire? En fait, ça s'approche plus de ce que la CW a fait en mieux. Faut pas déconner. Mais c'est un truc beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus sombre que le Green Arrow de Nissonil ou celui du début des années 2000, en fait. Et c'est à lire, franchement. Ouais. Et c'est moi qui aurai la review, bien sûr.
Clegane me l'avait recommandé quand il est rentré dans le staff et je l'ai pas fini, mais alors c'est vrai que c'est déjà, rien que graphiquement, c'est une énorme claque.
C'est Otto Schmidt qui dessine, non?
Non, parce que là oui. C'est Mike Grell, donc c'est 10 sur 10, tu vois, c'est pas 9 sur 10, c'est 10 sur 10 direct.
Ouf, ça va.
Just ensuite pour le label.
Ensuite, on finit avec deux équipes très réputées dans l'univers DC. D'abord la JSA avec tout le run de James Robinson et Paul Smith. Utilise The Golden Age.
Yes, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Un des meilleurs trucs de Robinson, d'ailleurs, c'est sa meilleure période, c'est les années 90. Ça et Starman, fameux.
Ouais. Et ensuite, en dernier, il y aura The Great Darkness Saga, donc qui met en scène cette fois-ci la Légion des super-héros. Ouais.
Est-ce que
Paul Levitz est dessiné par Keith Griffin. Oui.
Ouais, est-ce que tu pourrais redonner le nom du label, s'il te plaît?
DC.
La collection de
DC Confidential.
DC Confidential.
Voilà, DC Confidential. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait beaucoup qui se demandaient à quoi servirait cette collection, mais j'ai l'impression qu'en fait, mais j'ai l'impression que c'est une collection qui est destinée à publier que du contenu inédit, du contenu un peu de niche, c'est-à-dire Green Arrow de Mike Grell, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. La The Great Darkness Saga, c'est tout ça, c'est des grandes sagas qu'on n'a jamais eues en France.
Ouais.
Je me dis qui est dédié.
Mais après, mettre les choses, l'intérêt de, pour que le lecteur vite fait puisse se retrouver, mais c'est pas exactement comme, aux États-Unis, les labels ont quand même un certain poids, tu le vois sur le, t'as le macaron sur le comic, sur le single quand tu l'achètes. Chez Urban, est-ce que les gens prennent vraiment le tome Urban, tu vois, le tournent? Regarde, oh là là, mais c'est un Urban DC Confidential. Non, ils en ont rien à battre. Non, mais c'est vrai.
Non, mais attends.
Mais après, je comprends qu'ils publient ce genre de récit parce qu'ils entrent en résonance un peu avec l'actualité comics aussi. Le Green Lantern, par exemple, vu qu'il y a Parallax dedans, ça rentre un peu en cohérence avec le run de Morrison qu'ils sont en train de publier en ce moment.
Ah non, mais j'ai pas du tout.
Pareil.
Ah non, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Je dis juste que, tu vois, quand Urban dit on a un nouveau label, etc. Enfin, les gens s'en branlent. Oui. C'est, franchement, t'aurais Urban DC. T'as DC, Essential, Vertigo et Urban Indies. Voilà, bon, en gros, t'as à peu près résumé le truc, mais DC Confidential, tout le monde s'en bat les couilles.
Non, mais j'ai envie de dire, en fait, les éditions Urban, elles sont belles. Il y a rien à redire là-dessus. Mais leurs formats sont tellement similaires. Les éditions, elles sont
vraiment... C'est tous les gros trucs noirs, machin, etc. Voilà. Ça fait joli dans les bibliothèques, il n'y a pas de problème. Mais le lecteur, il s'en fout que ce soit la nouvelle ligne.
Alors, je dirais pas ça, parce qu'en fait, à l'époque où je lisais chez Panini Comics, il y avait tellement de différences sur les éditions que le rapport contenu-édition était important. Je dis ça, mais ils faisaient pas mal de boulettes. Ils avaient foutu des Big Book, Blackest Night, qui n'avaient pas forcément de rapport. Et c'était que du Green Lantern Corps, alors que t'avais pas de... on n'avait rien de ce qui se passait avant ou après. Donc, c'était assez bordélique, parce qu'on avait très peu de choix, en fait, de lecture chez DC. Mais toutes les collections, je les connaissais de tête. Et dès que je voyais le format, je me disais, tiens, ça, c'est un Big Book, ça, c'est un DC Icon, ça, c'est un DC Heroes. J'arrivais à me repérer, alors que là, avec Urban, depuis qu'Urban a repris DC en France, je ne suis plus aucune collection. Les collections, il faut vraiment que j'arrive sur le site pour savoir de quelle collection est-ce que ça vient.
Non, mais regarde, je lis juste, DC Anthology, DC Archive, donc déjà de base tu comprends pas lequel est lequel. DC Beyond, DC Black Label, DC Classic, donc anthologie, je sais pas, Classic, DC Confidential, Deluxe, Essentiel, Nemesis, Originals, Premium, Press, Rebirth, Renaissance, Signature. Et là on est juste dans DC, il y a même pas marqué Urban devant.
Donc non, il y a Urban Cult, Urban Kids, Urban Games, ça va.
Ouais, voir. Urban Premium, Urban Preview, Urban Series, Strips, et après on a Vertigo Classic, Deluxe, Essentiel et Signature.
Comment ils font pour s'y retrouver eux-mêmes, en fait.
Voilà, donc franchement, je pense que oui, à la limite, le lecteur, il peut regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la même collection au cas où, mais la vérité, c'est que la majorité, ils s'en cognent.
Ouais. Et merci pour la transition, d'ailleurs. Vas-y, Plastique, tu veux dire.
Je pense qu'au début d'Urban, ça avait beaucoup de sens dans la manière dont ils ont mis en place leur ligne éditoriale, et aujourd'hui, c'est devenu le bordel. Je pense que c'est plus comme ça, tu vois. Donc voilà, si tu voulais lire du DC Renaissance, c'était New 52, tu savais. Si tu voulais dire du DC Essentiel, voilà, Et après, je crois que c'est Archive le format, ou c'était... en tout cas, tu avais le format plus classique avec les histoires un peu, style la légende Flash, la légende machin, tout ça. Mmh. Ça avait du sens au début, aujourd'hui ça marche plus. Mais peut-être que justement le public qui est intéressé par les lignes éditoriales et les récits de niche, c'est peut-être plus le genre, enfin je sais pas, hein, je pose la question, à vouloir aller voir la collection justement DC Confidential parce que c'est des gens hein, qui se la pètent un peu et qui veulent avoir un truc Confidential, tu vois.
Ouais, bah, ils iront dans DC Archive, tu vois, si tu regardes un truc, si tu veux vraiment te la jouer expert. Oui, mais parce que du coup, pourquoi tu ne mets pas dans DC Archive ? Allez, tu vois, genre, exactement.
En fait, les récits qui sont là, en fait, c'est pas des... je crois que dans Archive, c'est vraiment...
du vieux.
Vraiment du genre Silver Age, quoi.
Ouais, voilà.
Et c'est pas forcément un arc complet, c'est plus des petites histoires collées les unes avec les autres.
Ah bah non, ça, c'est DC Anthologie.
non.
Oublions ça.
Tous les récits, enfin, je sais pas pour Longbow Hunters parce que je l'ai pas lu, mais tous les récits sont du post-Crisis aussi.
Oui, c'est ça. Attends.
Donc, c'est essentiel version de niche en fait.
Non, mais voilà, on comprend. En gros, on comprend. Encore une fois, tu fais une conférence, c'est bien, t'annonces un nouveau label, ça fait classe. Mais en soi.
Oui.
Du coup,
et à ça va s'ajouter du coup. Un nouveau label qui est l'Urban Inc. qui cette fois a un peu plus de sens.
Hey, ça va reprendre
des récits young adult qui étaient publiés sous DC Inc. Mais pas que. On retrouve en premier Harley Quinn Breaking Glass qui était un graphic novel écrit par Tamaki et Pew. Je l'ai pas lu personnellement. Je sais pas si quelqu'un l'a lu chez vous.
Alors je l'ai lu. J'avais
adulte.
Ah oui, non, mais alors le DC Inc, c'était pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça fameux, mais je crois que c'est celui qui que j'ai le plus apprécié, on va dire. Je peux pas dire que j'ai vraiment aimé, mais de toute façon, Mariko Tamaki, c'est quelqu'un que j'apprécie modérément. J'aime bien ce qu'elle fait en général, même si c'est vrai que ça s'adresse toujours à un public relativement jeune. Donc je me dis que c'est celle qui s'en sort le mieux dans le catalogue.
Ouais. Donc ensuite, on aura le récit Raven. Donc, pareil, qui est écrit par Camille Garcia et dessiné par Gabriel Piccolo, qui est un artiste qui vient d'abord de toute la scène young adulte.
Exactement.
Qui vient d'Internet et qui fait son premier comics ici. Donc, je ne l'ai pas lu non plus, mais ça n'a pas l'air très fameux. C'est très beau, en tout cas. Ça parle aux adolescents, je pense. Mais après, je pense que ça ne va pas plus loin que ça. Et enfin, on retrouve... un récit qui n'est pas tiré de DC Inc, c'est Supergirl Being Super, et par contre là c'est très très bien. Watch.
Mais c'est encore Mariko Tamaki, il me semble, non?
Oui, c'est aussi Mariko Tamaki.
Dessiné par Joel Jones.
Alors, ouais. C'est un peu le titre qui a révélé Joel Jones, justement. C'était pendant les DCU, si je dis pas de conneries.
Ouais.
Et c'était les origines de Supergirl, et franchement, on était dans une période où Supergirl c'était vraiment de la merde. Et lire cette mini-série-là, c'était vraiment génial. Je comprends pas vraiment le rapport DC Inc. C'est vrai que c'est un titre qui met une adolescente en avant, avec des origines. Et je pense que c'est vraiment le meilleur titre des trois pour le moment.
Oui,
Et après, je sais pas si tu comptais en parler de Middle West juste après.
Vu que c'est un titre Image, je pensais pas en parler.
Ouais, mais alors Middle West, c'est foncé. j'ai juste envie de dire ça.
Ouais. Ah c'est ouais. Par qui
Scotty Young et Jorge Corona.
Et donc, c'est bien.
C'est... Franchement, Scotty Young, au scénario, je ne m'attendais pas à autant, en fait. Je savais que j'avais déjà lu au scénario et c'était pas mal, mais à ce point-là, ça m'a bluffé. Si tu vois I Hate Fairyland, tu mélanges ça à... une sorte de Kansas, tu vois. Tu mélanges Kansas et I Hate Fairyland, et là, tu tiens Middle West.
Ok, je vois, très bien. Donc, voilà, on a fini avec Urban Inc. Le troisième grand point qui a été évoqué, c'est toutes les sorties liées à l'arrivée de Bendis chez DC. Donc, en plus de son run sur Superman et Action Comics, ils vont publier Event Leviathan, qui a eu son prologue dans Action Comics, qui est un event qui est toujours en cours en VO, qui est vraiment très bien pour l'instant. On attend le dernier numéro qui va un peu révéler toutes les clés de l'intrigue. Mais je pense que c'est une très bonne publication qui mérite de lire. Les dessins sont juste magnifiques aussi. Voilà. Et à côté de ça, va être publiée toute la ligne. Enfin, toute la ligne, non, mais une partie de la ligne Wonder Comics.
Ça, c'est scandale.
Avec Young Justice, Naomi et Wonder Twins. Mais par contre, il n'y a pas Dial H for Hero, qui, d'après Clegane, et beaucoup, je pense, est la meilleure série de ce label-là.
C'est un scandale. Mais Urban...
Bah, le pire, c'est Young Justice qui va le mieux se vendre, on le sait, alors que c'est le moins bon.
Ouais, clairement.
Urban, vous êtes zéro, c'est tout.
C'est le moins bon, parce que Wonder Twins et Dallas, bon, on dirait, je viens pas, mais Wonder Twins, c'est ouf. Et ça, c'est vraiment cool que ça soit publié. Et Naomi, c'est agréable. Franchement, c'est des paysans, ça va, c'est plutôt sympa. Alors que Young Justice...
Moi, le dernier numéro, il m'a gavé.
Je peux pas dire que c'est bien, Young Justice.
J'ai toujours pas lu, moi.
Malgré tout l'amour que je porte à ces personnages, à l'équipe, etc., c'est beaucoup trop bordélique, c'est beaucoup trop lacunaire pour vraiment être considéré comme un bon comics. Hein. C'est vraiment un comics moyen et qui marche.
Il n'y a rien qui a avancé.
Ouais, tu comprends pas grand-chose. En plus, ils vont le faire en plusieurs tomes. Et en bout de 6 numéros, parce que généralement, c'est par 6 numéros qu'ils font ça, Urban, et en 6 numéros d'Young Justice, vous ne comprendrez rien parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ça va être très compliqué. Hein.
Je me rappelle du premier numéro. Enfin, bizarrement, j'ai lu plus loin que le premier arc. Et après, ça a été vraiment émietté parce que j'avais vraiment lâché. Mais c'est vrai que le premier numéro, c'est celui dont je me souviens le mieux parce que ça a vraiment été une claque parce que on est lâché dans un bordel monstre et on en ressort sans aucune information.
Et là, après, il y a les Tiny Lanterns et ça c'est compliqué. Ça.
Ouais.
Et je peux te dire que c'est exactement pareil. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est exactement pareil pour Legend of Super Heroes. Hein.
Ah non, je l'ai pas lu et là, je suis déçu.
Ah, rien compris. J'ai pas lu le premier, mais j'ai lu Millennium quand j'ai essayé. Bordel. Et Millennium, déjà, fallait encaisser. Hein.
J'avoue.
C'était un scandale aussi. C'était du vide.
Aujourd'hui, Clegane est scandalisé.
Bah, je sais pas comment, si un jour il publie, je pense que c'est un truc que Urban. Heureusement que Urban commence à publier un truc, Légende of Super-Héros, avant. Hein, parce que tu commences Légende of Super-Héros, déjà, tu comprends pas. Les mecs qui connaissent ne comprennent pas, là. Millennium, c'est passé. C'est compliqué.
Mais Millennium, c'était pas la Légion, c'était autre chose. Il s'est fait son petit trip de « on va raconter l'histoire de DC », c'est tout.
Ouais, moi, je pense que c'était... Il y avait aussi le truc, genre, comment ça introduit la timeline DC, en fait. Une petite théorie. La timeline du futur, tu vois, genre, un peu en mode...
Mais ça, c'était nul.
Mais c'est un peu parti... Alors, tu vois, Young Justice, c'est vraiment un problème général, mais... C'est à double tranchant. D'un côté, c'est plutôt cool, par exemple pour Léviathan, etc., que Urban fasse l'effort de vraiment essayer de coller au maximum à ce qui se passe en VO. Et ça, c'est vraiment un effort qu'on doit saluer. Par contre, le problème, c'est que, en fait, il y a pas mal de comics actuellement qui mettent du temps à se lancer, qui sont pas mauvais, que moi je trouvais plutôt bons dans l'ensemble, mais qui, sous le format 6 numéros par 6 numéros, bah, tu restes sur ta faim avec pas beaucoup de... Enfin, il s'est pas passé tant de choses. C'est ce que un peu... Enfin, ma review sortira peut-être en même temps que le podcast, je sais pas quand il sortira, mais de Shazam. Shazam par Jones, là, en 2019. Tu vois, j'ai bien aimé. Le premier numéro est en dessous du reste, et j'aime bien ce qu'il développe, j'aime bien l'univers, mais il y a énormément... Au bout de ces 6 numéros, t'as énormément d'exposition. Alors moi, ça me pose pas de problème, l'exposition. Le problème, c'est que là... Ces 6 numéros vont être regroupés dans un tome. Et que c'est un tome avec, on va dire, 4 numéros sur 6 qui est de l'exposition. Et donc le lecteur, il finit avec ça et il a un peu l'impression d'être en mode « Ok, d'accord, j'ai vu le prologue, maintenant il se passe quoi ?» Donc c'est un choix un peu particulier. Est-ce qu'il faudrait passer un choix d'attente qui est au moins 10-12 numéros ? Je sais pas, à voir.
Alors, autant je suis d'accord avec toi, autant je me dis, on a tellement galéré je parle des lecteurs VF sur les réseaux sociaux, à demander aux éditeurs d'aller plus vite dans la proposition de comics, parce qu'on calculait, il y avait une sorte de calcul de la différence de date, et on était arrivé à quasiment un an de différence, alors qu'en général, on était à 6 mois de différence. Et là, Urban, le fait qu'ils accélèrent le rythme, Alors, c'est un point positif, c'est vrai. Là, tu relèves un autre point négatif. Mais l'autre point négatif, c'est que du coup, il y a une demande qui est constante d'un lecteur beaucoup plus large maintenant.
Enfin, ah non, mais oui. Mais que le problème, là, le problème, c'est vraiment ça vient pas d'Urban, tu vois. C'est vraiment le problème, c'est la structure narrative des récits actuellement.
Oui. Genre, avec énormément d'expositions. Shazam a énormément de retard.
Après, je pense qu'il y a aussi ça, c'est une autre question, c'est que est-ce qu'on prend plus trop le temps, parce que pour construire des choses, des fois, t'es obligé de mettre en place beaucoup d'éléments. Et on a des lecteurs ou même sur le marché veut de la vitesse, tu vois. Qu'on ait des récits qui soient percutants dès le début, t'accroches, c'est bon, lis. Ce qui était exactement la proposition finalement des New 52. Si tu regardes le Justice League New 52, c'est ça, c'est un gros blockbuster. T'arrives, tu le lis, ça commence direct. Allez, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était un gros blockbuster comme on fait.
Ouais, mais avoir un regard sur le produit proposé.
Oui, voilà. Après, le problème, c'est que justement, c'était un peu l'inverse. C'était que du coup, le Justice League New 52, t'arrives avec un début qu'on aime ou qu'on n'aime pas en fanfare, avec blockbuster, etc. Et passé le premier tome, bah, ça commence déjà à baisser parce que, en fait, l'exposition qu'on n'a pas faite avant, bah, il va falloir la faire. Et donc, on arrive, Justice League New 52, tu lis le premier tome et le deuxième, et après, t'en loupes au moins 3-4 avant de lire la fin. Parce que le reste au centre, on s'en branle.
Ouais. Bah, alors, Urban, si tu nous écoutes, hein, Blue a des propositions à faire et s'il y a un emploi, bah, il serait ravi et certainement moi aussi.
Et oublier Dial Edge.
Oui, et Dial Edge aussi. Et
justement, ça m'avait un peu fait tiquer aussi pendant la conf et du coup, je suis allé demander à l'éditeur pourquoi il ne publiait pas le Dial Edge. Et ils m'ont dit que Young Justice et Naomi's étaient obligés parce que ça rentrait en cohérence avec ce qu'ils publiaient. Ailleurs, il y a eu notamment un crossover avec Naomi qui arrive dans pas longtemps. Et Wonder Twins, ils ont annoncé justement, une exclue à l'époque, mais qui a été annoncée depuis, un crossover entre Wonder Twins et Young Justice, qui arrivera prochainement. Et du coup, ils ne voulaient pas se mouiller avec Dial Edge maintenant, mais ils le feront si la ligne marche bien.
Alors voilà, Clegane, il ne te reste plus qu'à acheter 10 exemplaires de Young Justice et 10 exemplaires de Wonder Twins pour avoir Dial Edge en français.
Que dalle.
Heureusement qu'il y a la série. Heureusement qu'il y a, franchement, en France, heureusement que les Français ils sont attachés à la série TV Young Justice. Hein. Parce que la Young Justice, tu la sors là sans la série TV, à mon avis, c'est mort.
Mais nous, on a toujours pas la saison 3 en français, c'est ça qui est beau.
C'est pas grave, hein.
Ouais, non, mais de toute façon, ça viendra beaucoup plus tard. On a fini avec le Black Label, non? Ouais, on finit avec le Black Label.
Bah, il reste le Black Label. Bon, en attendant, ils ont aussi annoncé qu'ils publieraient Doomsday Clock, mais ils savent pas quand, parce que c'est pas encore fini, on va en VO.
C'est vrai qu'à un moment donné, ça fait un moment, ça, ils avaient dit qu'ils le faisaient, Doomsday Clock.
Oui.
Et après, ils étaient un peu revenus en mode... Ouais, au début, ils ont fait, on va le sortir, après, ils ont fait, ouais, non, mais il sortira. Ça, on vous le garantit. Après, on va voir. Ah, ça, c'est pas leur faute, tu vois. Ouais. Ça aussi, et ça, c'est aussi... Bon, t'inquiète pas, voilà. En attendant, je me fais pas de soucis, ils ressortent chaque numéro à 5 balles, putain, c'est un score. Bon, on va pas revenir avec ça.
On en a parlé dans le dernier podcast. Et donc, voilà, les dernières annonces, c'est ce qui va être publié pour le Black Label. Donc d'abord, toute la ligne de Snyder avec le Year of the Villain, qu'ils ont décomposé.
Ouais.
Mais par contre, ouais, leur idée de publication est pas bête, c'est qu'ils ont décomposé ça en 3 phases différentes pour essayer de pas trop perdre de lecteurs, bien regrouper des récits. Par exemple, ils ont regroupé toute la Justice League, ils appellent ça New Justice, tout le Batman qui rit, et après, il y aura tous les infectés. Bref, tout ça pour arriver à Hellraisen à la fin. Donc, ils ont décomposé ça pas trop mal. Ouais, mais... Voilà.
Non, mais alors, même si les récits sont pas fameux, ils ont quand même une bonne méthodologie justement pour faciliter la lecture. Parce qu'en VO, on a été dans un beau bordel.
Mais oui. Et donc, pour rester sur Snyder, il y aura de publier son Batman Last Night on Earth avec Capullo, que j'ai pas lu, mais qui donc se passe dans un univers un peu post-apo avec Batman qui se promène avec la tête du Joker. Vous l'avez lu ?
J'ai pas fini. franchement, j'ai pas fini, mais il y a des points positifs dans ce récit-là.
Je l'ai lu et ça va.
Ouais, c'est ce qu'il a fait de moins pire, on va dire.
Bon, bah, très
après,
bien.
Les gens, les gens ils kiffent un Snyder. Il y a pas mal de gens qui kiffent Snyder. Hein,
ah donc, bah oui.
Donc c'est normal que... parce que nous, on est des connards hautains et qu'on lit tout Snyder. Enfin, on lit tout Snyder. On est obligé de se le taper sur plusieurs années. Donc finalement, la lassitude se fait sentir. On connaît ses gimmicks. Mais quand tu regardes les commentaires sous les publications d'Urban, je me suis amusé à le faire. Bon, bah, tu te rends compte qu'il y a un public, quoi. Et pas seulement parce qu'il y a Batman dessus. Même si, bon, c'est 80% du taf.
Oui. Et pour terminer avec Snyder, ils ont annoncé aussi une intégrale pour American Vampire. Dont le prochain... Ils ont dit, alors il y aura 7 tomes, mais peut-être 8. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en VO.
J'espère voilà. qu'ils ne lâcheront pas les éditions normales pour les anciens lecteurs.
Ah si, à mon avis, je peux les faire foutre.
Ouais, j'ai des doutes aussi là-dessus. En fait, ça dépend. Si la VO arrive avant la fin de la publication de l'intégrale, je pense qu'ils vont le sortir. Si ouais. l'intégrale est déjà complètement publiée, ils publieront que l'intégrale.
Ah, ça fait chier, ça. Et enfin, il y a quand même des choses bien dans ce Black Label.
Tout à fait. On commence avec la vague Joker et Harley Quinn, avec Arlene de Stephen Sejic. Donc, Clay, c'est toi qui t'es occupé des reviews.
Yep, très, très, très bon. Franchement, valeur sûre, allez-y, Stéphane. Toujours du bon taf.
Ah, le Stéphane.
Parfait. Ensuite, il y aura Joker Killer Smile de Les Mayeurs, qui aussi a un très bon titre, si quelqu'un veut en parler.
Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment comment...
Ouais, on n'a eu qu'un numéro, mais il n'était pas mauvais.
C'est vrai. Donc, y a quand même... Et c'est du Les Mayeurs, donc il y a des chances que ça soit ouais. très bon, effectivement.
Je me rends compte que je ne l'ai pas lu. Il va falloir que je rattrape ça.
Ensuite, il y aura The Question, du même Jeff Lemire. Cette fois-ci, on n'a pas vraiment d'infos dessus. Ça n'a pas encore été publié en VO, mais on sait que ça arrivera en VO. La même chose pour Wonder Woman Dead Earth de Warren Johnson. On a eu des planches aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je trouve ça vraiment horrible. C'est vraiment pas fou. Les dessins, ils sont... Enfin, moi, je n'accroche pas du tout. L'univers, pas non plus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner.
Moi, j'ai quand même... En fait, la preview me donne pas de grands espoirs. Elle m'emballe vraiment pas. Mais connaissant l'artiste, je me dis, il y a quand même... Ça peut pas se limiter à ça. Ça peut pas se limiter à un simple pitch débile à la Snyder, ouais. en fait. Donc, je me dis, malgré tout, faudra tenter.
Oui. Oui. Moi, j'y crois pas trop, mais oui, faudra tenter. Et donc, il y aura également The Last God de Johnson et Federici. On a eu le premier numéro aussi, je l'ai
C'était
pas
C'était le truc d'Heroic Fantasy, là
Ouais.
Bon, là, le premier numéro est hyper introductif, et donc je peux vraiment pas dire si ça sera bien ou pas. Mais visuellement, c'est très beau.
Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est Riccardo Federici, c'est l'artiste qui a remplacé Stephen Sejic sur Aquaman avec Dan Abnett. Et c'est un artiste que je
lui.
Oui, et je le trouvais encore plus fort que Sejic sur Aquaman. Donc
je
là pour
avec toi, quoi.
Ouais, pour de l'heroic fantasy, il est absolument magnifique. Mais alors en termes de scénario, j'ai trouvé ça complètement cliché. Donc j'attends la suite. Alors ça claque hein, mais niveau scénario, on s'attache vraiment pas au personnage, etc.
C'est mon problème, c'est hyper introductif et ça apporte pas grand-chose en fait le premier numéro.
C'est moi, en fait, on est en train de partir sur un podcast review, en fait, depuis tout à l'heure.
C'est pas comme d'hab.
Complètement.
Et le dernier titre...
Et donc, la dernière annonce, ce sera Batman Curse of the White Knight, donc la suite de Batman White Knight de Sean Murphy.
Wow.
Où, à la fin de la conférence, ils ont distribué des petits livrets du numéro 1 à tout le monde. C'était mignon.
Wow.
Bah, honnêtement, pour suivre ça en VO, au départ, je me disais, bah, allez, on s'en fout, White Knight, au départ, j'avais vraiment pas aimé. Et je me suis intéressé aux deux premiers numéros et en fait j'ai fini par tout gober parce que j'ai vraiment adoré la suite alors que j'avais pas aimé le premier volet. Donc c'est vraiment essayé parce qu'il ose vraiment des choses de malade.
Ouais, alors moi je pense qu'il ose un peu trop. Hein. Je sais pas si t'as lu le dernier numéro.
Ah oui, non mais il ose beaucoup trop. Ah, non, mais
Alfred qui sort en fleuré pour aller affronter Etrigan, bon, peut-être pas. Hein.
Moi, je suis rentré dans le délire. Ça fait longtemps que Snyder, autant il pousse beaucoup trop, autant là avec Sean Murphy. Bah, moi, j'en trouve l'esprit punk rock Jesus et ça me plaît. Du coup, bah, je sais pas si c'est un effet d'accumulation de choc à choc à choc à choc jusqu'à un choc un peu plus à oser.
Bah, si vous voulez un défouloir un petit peu con, si vous voulez un défouloir un petit peu con, c'est fun. Non, mais ce que je veux dire, non, je trouve que si je compte un truc un peu défouloir, un peu con, franchement, comment ça s'appelle, White Knight, ça va. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas du tout comme il est vendu. Il est vendu comme une révolution du personnage et un truc ultra intelligent par son auteur, ce qui est faux.
Ah non, 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 non. Moi, je le vois
le problème, c'est qu'on va vous le vendre
comme Taylor, en fait.
Oui, le problème, c'est qu'on va le vendre comme... Enfin, il est vendu comme ça. C'est ça, le truc. C'est qu'il est vendu comme un truc, waouh, ultra intelligent. Et ça, c'est vachement important.
Mais on a l'habitude de survendre les trucs comme ça, tous les projets d'artistes un peu réputés.
Certes, mais il y a des trucs où tu peux avoir la prétention, tu peux pas avoir de prétention et le vendre comme un truc divertissant, et finalement, tu te rends compte que c'est ce que le public attend, en fait. Tu leur vends un truc à la con, ils sont contents. Et c'est pas, je le dis pas dans un sens hautain, tu vois, c'est comme, je te dis, une justice face au maître de l'univers. C'est divertissant, tu te marres bien, franchement c'est fun à lire, tu vas passer un très bon moment, mais faut arrêter de vendre ça comme une révolution. Et si tu le vends ça comme un truc fun, les gens ils sont contents.
Je suis d'accord avec toi, mais les gens, tu vas leur dire « Ouais, c'est un truc con, vous allez aimer acheter », ils vont jamais acheter.
Oh, alors là. Alors, rappelle-moi combien il y a eu de saisons de Gotham.
J'avoue. Et moi, je pensais à Kung Fury, mais voilà.
Et voilà, donc c'est terminé pour la conf urbaine. En vrai, je sais pas s'ils avaient fait ça les années précédentes, mais c'était vraiment...
Si, mais pas aussi poussif. Pas aussi poussif, en
vrai. J'ai envie de reviewer le 3, quoi.
Poussif ou poussé. Parce que ça veut pas dire la même chose, hein.
Ouais. Les deux.
Bien poussé, oui. On va passer au comics VO, on va faire un petit point comics VO, plutôt un petit point Tom King en réalité, parce qu'on a quelques informations sur le projet Strange Adventures, et la parole est à My Plastic Bass.
Ah, c'est à moi, ok.
Oui, bah, oui, c'était toi qui m'en avais parlé, non?
Ah non,
c'était moi, mais...
Je crois que c'était Clegan, mais...
Ah bah c'est bon, bah voilà, j'ai retrouvé mes bonnes habitudes.
C'est pas grave. Vas-y, je laisse c'est toi qui fais la news, Clegan, donc je te laisse faire, en fait.
Okay. Moi. Donc King a annoncé que à qu'il en avait un peu marre d'écrire sur des gars en la quarantenaire dépressif, et que donc avec Strange Adventures il veut prendre les gens, il veut surprendre les gens en fait, et qu'il a annoncé que Strange Adventures ce serait un peu une réflexion sur l'idée du colonialisme dans un peu la même idée de ce que faisait John Carter. Bah lui, il n'y avait pas de réflexion du tout, c'était vraiment le personnage blond qui arrive dans une autre société et qui est merveilleux dans cette société, qui est un surhomme, et qui va montrer à ces sauvages ce que c'est que la civilisation et ce que c'est qu'être un homme blanc, quoi. Et là-dessus, c'est assez intéressant. Et en plus, il annonce aussi qu'il veut... observer comment notre société... alors, je sais plus comment il a dit ça, mais comment on se voit dans notre société et comment on est réellement, je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Il veut observer notre façon de nous voir, ouais, dans notre société. Il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Tu me le confirmes, Maï, ou pas?
Plus ou moins, ouais. Parce que moi, j'ai juste lu ce que tu avais écrit toi, hein, donc...
Ouais, mais est-ce que tu vois que je me rappelle ce que j'ai écrit?
J'ai pas trop... Ouais, enfin, si je comprends bien, c'est un peu le côté entre d'un côté, enfin, moi ce que j'avais compris de ce que tu avais écrit en tout cas, c'était le côté un petit peu entre d'un côté le toi réel chez toi à la maison et
voilà,
la conscience que tu fais de toi-même entre un monde que tu projettes et le monde que tu es réellement à l'intérieur. Ce que j'avais cru comprendre dans ta news en tout cas à l'époque, mais. J'avoue que je l'ai pas relu au podcast, alors
voilà. Non, mais c'était ça, ouais. Il y avait une différence entre ton toi, celui que tu voyais en ta tête, et le toi, celui que tu es dans la vraie vie. Voilà, c'était un genre là.
Putain, on voit qui a pas eu la moyenne en philo au bac, hein.
Alors, je te dirais que j'ai eu 11 en philo.
Wow.
Mais
moi, je vous dirais pas combien j'ai eu en philo, mais voilà.
Mais donc je trouve ça assez intéressant, surtout l'idée d'observer l'idée à la John Carter, quoi, ce mec qui va dans une planète et qui devient un héros là-bas, parce que j'ai lu John Carter il n'y a pas longtemps en plus, et je trouve ça super intéressant en fait d'aujourd'hui revenir sur cette idée et de montrer que c'est spécial, quoi. C'est un peu du colonialisme, bon.
Bah oui, complètement.
Après, ce qui est aussi important, c'est il a vachement souligné la place de la femme de Adam Strange là, qui aura un grand rôle visiblement dans Strange Adventure. Et donc moi, je pense que tu peux de nouveau partir sur des paraboles sur la conjugalité et la paternité.
De toute façon, s'il n'y a pas ça dans un truc de Tom King,
c'est ça. Ça, mais sans la dépression cette fois-ci.
Et encore, c'est pas sûr, hein. Franchement, vu l'illustration de Mitch Garraz, je me dis, oula, il y aura peut-être un côté covers, très joyeux.
Mais... Je pense que ce sera plus sur la dissociation que sur la dépression. Mais,
non, mais à mon avis, elle sera quand même de la partie. Il mettra peut-être l'axe plus sur la dissociation, mais la dépression, à mon avis, elle va jouer là-dessus quand même.
Mais je vois bien le côté borderline, plutôt, tu vois. Mais,
ouais. Ouais. Moi, je vois vraiment quelque chose comme, dans sa tête, il pense faire le bien. Et par contre, vu de l'extérieur, il fait pas tant de bien que ça. Il fait voir au contraire plus de mal, ce qui est un peu arrivé avec le colonialisme.
Justement. Ouais, mais là, ce que tu me dis, bah, ça me fait penser à pas mal d'aventures justement d'Adam Strange, mais du genre années 60, ouais. etc. Quand il part en mission, etc. Et à la fin de l'histoire, il se rend compte que bah en fait, il agissait mal. Du coup, il corrige son erreur à la fin. Il se dit mais là, j'ai fait le bien.
Bah, moi, je pense que ça va tourner comme ça.
Pas dans cette news-là, mais je l'avais écouté dans un podcast et il parlait souvent des premières aventures d'Adam Strange des années 60. Ouais. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans ce style-là.
Okay. Bah déjà, rien que le titre Strange Adventures, ça fait référence aux comics des années 60.
Ouais, et d'ailleurs, il y a un deuxième personnage qui doit être annoncé dont on ne connaît toujours pas l'identité.
Ouais. Animal Man.
Ah bah alors là.
Animal Man.
Alors là, ce serait vraiment drôle.
Bah oui, mais en fait, Animal Man, il a été introduit justement dans Strange Adventures. Ouais,
j'ai pensé même pas que toi, Justin.
Ouais. Et ça permettrait en plus de faire une relation avec l'influence de l'homme sur la nature, sur les animaux. Et je pense que ça peut être intéressant. En vrai, j'y crois.
Mais en fait, plus tu vends bien la chose, en tout cas.
Ça promet.
Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur Strange Adventures ou on enchaîne sur
Tom King. Tom King, encore une fois, est-il capable d'écrire un truc où personne n'est dépressif? Est-il capable de faire autre chose que des justifications de merde quand il se foire? Je ne sais pas, on verra. Hein. De toute façon, il trouvera, même si ça devait être nul. Écoute, est-ce que tu as lu... Parce que moi, j'ai feuilleté le bouquin Heroine Crisis, tu vois. Je l'ai feuilleté, moi, je suis urbain. Non, mais attends. Non, parce que... Et j'ai vu la préface, d'accord? Et dans la préface, bon, alors on va pas revenir à Heroine Crisis où le mec te sort en pleine conférence. Là, ça va spoiler, mais le personnage principal qui a fait de la merde n'a rien fait de mal. Il a osé dire ça en conférence déjà, en truc en mode non, ça s'est pas passé. Et en plus de ça, j'ai retrouvé le truc. Il te parle en gros, pour justifier Heroine Crisis, il te parle de la mort du père de Jerry Siegel, donc co-créateur de Superman, qui est mort lors d'un cambriolage. Et le mec, je cite, te dit « Cette histoire traumatisante entre un père et son fils, c'est l'événement fondateur qui sous-tend tout ce sur quoi DC Comics a été bâti, en mode « ça, c'est ma justification pour Heroine Crisis ». Donc, t'es dans la merde, tu dis n'importe quoi. Oui, mais la mort du père de Jerry Siegel a justifié Heroine Crisis. Genre, c'est un gars totalement en roue libre, et à un moment donné, je pense qu'il faudrait que quelqu'un l'arrête. Ou lui dire de fermer sa gueule. Ça serait pas mal.
C'était où? C'était dans la préface?
C'est dans la préface du Hero Crisis de Urban.
La préface.
Voilà, Park King a balancé ça en mode oui. Pardon.
Ok, bon bah c'est bien, c'est sympa. On va passer au cinéma. Franchement, je saurais pas de quoi te dire de plus sur la préface.
Ne l'ayant pas lu, je ne peux pas te non plus.
Ouais. Voilà. Donc, on va passer au cinéma avec Kligan, toujours.
Télé.
Qui...
télé.
Quoi?
À la télé, on passe.
Ah non, cinéma.
Non, ciné.
Cinéma, Kligan.
C'est TV.
Ah, mais ça va, c'est mon programme. Je fais ce que je veux, c'est bon. Oh là là, ça y est, on a sauté une ligne. Kligan est perdu. Voilà, on va passer au cinéma avec Kligan qui voulait nous parler du casting du Batman de Matt Reeves. Et donc. Kligan, ça va être à toi de démêler les annonces officielles et les acteurs qui sont en discussion pour certains rôles.
Non, c'est pas compliqué. Hein. On a Colin Farrell qui est pris pour jouer le pingouin. On a Andy Serkis qui va jouer Alfred. Et on a une nouvelle arrivante juste aujourd'hui, Jamie Lawson, qui est une jeune inconnue qui sort tout juste de Juilliard et dans un rôle inconnu. Donc déjà, on peut penser quand même pas mal à Barbara Gordon. Ou alors, je me disais aussi peut-être Holly Robinson. Et donc, le casting de Matt Reeves continue à être inattendu. Quoi. C'est vraiment des personnes qu'on ne voyait pas dans ces rôles-là ou dans ce film-là. Mais ça reste quand même des acteurs qui sont tous de qualité. Et moi, ça me donne toujours autant envie. Quoi. Et même, j'ai vu beaucoup de personnes me dire « Oui, Colin Farrell, il ressemble pas au pingouin, c'est pas normal. Bon, » J'ai envie de leur dire « C'est Hollywood, mais quelqu'un qui ressemble pas à un personnage, il suffit de mettre du maquillage et voilà, tranquille. » Et même s'il ne ressemble pas, peut-être que Reeves a autre chose en tête. Quoi.
Ouais, j'ai envie de dire, l'épouvantail dans Batman Begins, il ressemble pas tellement à l'épouvantail, et pourtant, ça fonctionne.
Mmh. Et comme le Joker dans Joker, au final.
C'est vrai.
Mmh. Ils mettront des prothèses.
Quoi? Ouais.
Bah, écoute, non mais attends, l'identité, enfin je veux dire, l'identité même du pingouin, enfin, qu'il soit petit, petit et gros, on s'en branle. Par contre, l'idée c'est que quand même, il a été victime toute sa vie parce que les gens se foutent de sa gueule en fait. Parce que, en fait, il est chum. Et que Bruce Wayne et les autres millionnaires de la ville, ils sont beaux. Sauf qu'on peut en parler. Et le mec se fait détester même par sa famille, etc. Parce que, c'est un paria et qu'il est dégueulasse. Et Colin Farrell, même si les clopes, l'alcool et la coque sont passés par là, il reste quand même beau gosse. Donc, à un moment donné, il va bien falloir improviser un truc.
Mais j'ai pas encore lu Empereur Pingouin, mais il me semble que le pingouin dans celui-là, il est c'est pas le même. Il est beaucoup plus normal, non?
De quoi tu parles? Tu parles de...
Empereur Pingouin.
Ah, celui avec... comment il s'appelle? Jason Fabok.
Ouais, il me semble que j'ai...
Alors,
d'après... de Detective Comics.
Ouais, c'était ça dans New 52. Et je crois que c'était pas vraiment le pingouin. C'était pas une histoire de son fils, etc.
Peut-être qu'il peut partir sur là-dessus, quoi. Je sais pas, mais...
Je sais pas si je comprends, mais bon, j'ai l'impression que c'était ça.
De toute façon, le maquillage, ça existe, quoi. Calmez-vous.
Oui. Et non, je m'en fais pas. En vrai, au final, c'est un bon acteur. Donc,
oui.
Après, si le scénario tient la route aussi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Et pour Andy
Serkis. Vas-y.
Ouais. Non, vas-y.
J'allais dire, s'ils l'ont casté lui, c'est bien que Matt Reeves avait une idée derrière la tête qui non, allait
voilà,
à
c'est ça.
Cet acteur-là.
Les gens essaient de dire non, mais il a tort. Mais Reeves, il l'a auditionné, il sait ce qu'il peut faire, quoi. Arrêtez d'essayer de vous mettre dans la tête des autres. Et pour Andy Serkis, c'est la même chose. Le mec, c'est un caméléon, quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et même si ses rôles auparavant ne donnent pas vraiment à penser à Alfred, je suis certain qu'il arrivera très bien à jouer ce personnage.
Oui.
Et puis bon, là, Blue parlait pour Colin Farrell de victime. J'ai envie de dire, regardez Bon Baiser de Bruges, il se prend tellement de choses dans la gueule et il a tellement l'air apitoyé que... Enfin, ça...
Ouais. Bon, ça, c'est son truc habituel, hein, c'est Colin Farrell. Il est toujours apitoyé.
Et du coup, j'ai envie de dire, ça marcherait plutôt bien, en fait, le pingouin avec lui. Même si c'est vrai qu'il n'aurait pas l'embonpoint requis.
Après, ça commence à faire pas mal de méchants, non? Sauf faire au moins 2-3.
Mais de toute façon, il avait annoncé qu'il voulait faire des successions de petits méchants plutôt qu'un grand méchant.
Certes, mais va falloir que le... Je sais pas combien de temps va durer le film, mais il va falloir s'accrocher quand même. Parce qu'il faut les introduire. Enfin, on parle d'un film, je peux pas arriver et dire « Oh, vous connaissez tout ce qu'il sait, allez, ça dégage. »
Ça dépend. Parce que si tu pars dans une enquête, tu peux tout à fait faire la longue Halloween où juste à Batman, il croise les méchants et t'as pas vraiment besoin de les introduire s'ils sont là juste, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes.
Ouais, voilà, des personnages secondaires. J'ai envie de dire que ça marcherait bien parce que ça te présenterait un univers dans une nuit dans l'univers de Batman, quoi. Et je me dis, ce serait vraiment cool. Croiser le pingouin et l'Iceberg Lounge, etc. C'est ce que j'attends d'un film de Batman.
Un vilain qui sera principal. Et ça sera soit. Je pense que ça sera Riddler. Et donc, il y aura juste lui à vraiment introduire, quoi. Et le reste, ils seront là, mais plus. Ils graviteront, en fait, autour de l'intrigue. Et dans ce sens-là, je pense que ça peut complètement marcher. De toute façon, moi, je fais confiance à Matt Reeves. Franchement, le mec, je sais qu'il est capable de faire ça.
Le mec, il a fait une meilleure version de la bataille de la planète des singes. Ça peut qu'être bon.
Ah ouais, il a surtout fait deux films Planète des singes qui sont une des meilleures sagas en fait de blockbuster qui soit sorti ces dernières années.
Oui, et même, tu vois, dans ces Cloverfield, la trilogie, qu'à chaque fois, il fait des films différents.
Après, il s'adapter
au contexte. Oh, ça allait, moi, j'ai trouvé. Dans ce
oui, mais il a que fait le premier. Il n'a pas fait les autres. Ouais, ouais.
Il les a produits.
C'est ça.
Ah, merde. Bon, bah, j'ai rien dit.
Donc, le cinéma, c'est fait. On va transiter doucement vers les séries télé. Et là, c'est bien Mike Pastigbus, je dis pas de conneries. Avec l'offre de HBO Max qui annonce deux séries télé et une série d'animation. Mais je pense que la série d'animation, on va vite passer.
Non, c'est pas une série d'animation, en fait. Hein. C'est une série live action aussi.
Ah ouais ? Ok, d'accord. Ouais, moi, je croyais que c'était de l'animation, vu le concept.
DC Super UI, justement, c'est ça qui est un... une série live action, en fait, ouais.
Oui.
Ouais. A priori, ça a été annoncé comme une live action, donc.
Non, mais c'est ça. T'as tout à fait raison.
Donc c'est ça qui est assez intriguant, je trouve, en fait, du coup. Mais commençons par le commencement, à savoir d'abord le truc que tout le monde attend ou pas. C'est Green Lantern par Greg Berlanti. On sait absolument rien à part que c'est Greg Berlanti qui produit, qui était déjà responsable du coup
du film.
De ce fameux film que tout le monde a vu à l'époque et qui...
Il a écrit le scénario.
Qui était extraordinaire. En fait, on n'en sait pas plus que ça, à part que c'est Berlanti qui produit et que moi, ça me rend moyennement confiant. Après, je me dis, c'est aussi Berlanti qui produit Doom Patrol. Au final, moi, j'ai bien aimé Doom Patrol.
Oui. En fait, dès qu'il y a une série d'ici, ils mettent Berlanti en producteur pour donner le nom.
C'est ça, il met juste son nom en bas des crédits et voilà.
Ouais.
Berlanti, c'est le Spielberg des films, quoi. Des séries, je veux dire.
En tout cas, voilà. Et alors, aucune idée de ce que ça veut dire pour le film de Geoff Johns ?
Eh ben, j'avais une... Je sais pas si on peut donner une théorie, mais une idée. Je sais pas si vous avez tous entendu parler du film Dune de Denis de Villeneuve. Et en fait, ils ont annoncé que sur HBO Max, il y aurait une série qui sera liée à ce film. Et donc, ils vont réutiliser les décors du film pour cette série, pour faire des économies, et je me disais que peut-être que là, ils voulaient faire le contraire en faisant une série Green Lantern où ils utiliseraient les décors de la série pour le film.
Mais ce serait horrible.
Mais mec, envoie un mail à la Warner, elle est pas au courant de ton idée de génie, là.
Non, mais si tu reprends les décors d'une série qui a un budget très limité pour faire un film
mais
après...
Non, justement, tu
soignes la chose.
Voilà, tu fais une grosse série. Et avec un gros budget, et comme ils pourront faire des économies sur le film, ça se balancera en fait.
Oui. C'est vrai qu'ils ont annoncé que ce serait la série qui a le plus de budget chez DC.
De toute façon, ils n'ont pas le choix. Enfin, Green Lantern, c'est quasiment que des effets spéciaux en fait. Tu peux pas faire autrement.
À moitié prix quoi.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas les budgets pour le faire sur Titans, mais.
Ouais.
On le fera sur Green Lantern.
Et en plus, HBO Max, ça sera une de leurs séries phares quoi. Donc ils ne peuvent pas la rater ça.
Non, mais ça sera comme Beast Boy chez les Titans saison 2. Hein. Genre, il se passe rien, il n'utilise pas ses pouvoirs et il reste dans la base d'aviation et puis c'est bon. Ça, c'est 9 épisodes, le 10e, il se réveille.
Ouais, mais ils auraient pu le tuer, donc c'est mieux que rien. Hein.
Alors, Plastic, tu viens de dire que Green Lantern, c'était un projet qui faisait peur. Moi, celui qui me fait peur, c'est même pas DC Super Hero High, en sachant là maintenant que ça allait être une série live action. C'est quand même Strange Adventures.
Alors ouais, Strange Adventures, moi j'ai envie de dire, faut voir, moi ça me hype pas trop, je t'avoue, Strange Adventures, mais... donc c'est le concept, c'est une série d'anthologie, ouvertement de science-fiction, du coup, avec du coup notamment les questions, la relation entre humain, super humain, méta-humain, je sais pas comment on peut dire, des épisodes d'une heure à chaque fois, toujours plus ou moins dans le même univers, si j'ai compris, mais qui seraient indépendants les uns des autres. Donc, c'est même pas dit qu'on croise Adam Strange dedans, hein, parce que voilà, mais faut voir. Mais surtout, c'est l'équipe qui est un peu. L'équipe de production était un peu angoissante, je dirais presque, parce que du coup, c'est donc garanti à la production toujours, mais surtout, la série sera menée, showrunnée par un monsieur qui s'appelle John Stephens, que vous connaissez tous, n'est-ce pas ?
Évidemment.
Yes. Qui est responsable notamment de Gotham, Gossip Girl.
Ah, mais oui, je me rappelle.
Aussi, voilà. Pour dire aussi, moi j'aime bien, j'avoue, hein, mais Gossip Girl, c'est déjà pas trop ça, et Gotham, ça me fait franchement flipper. Voilà.
Donc, oui.
Voilà. Yes. L'origine, c'est prévu pour DC Universe et ça passe du coup sur HBO Max parce que ça.
Ça l'a mangé.
De cachet que pour DC Universe.
Ouais. Et enfin, bah, DC Super Hero High, je sais pas, on en parlait plus tout à l'heure, mais en fait, j'ai pas présenté non plus parce que bah, j'avais pas tout à fait. Enfin, j'avais cru que c'était une animation.
Et donc, DC Super Hero High, si tu veux que je présente, c'est du coup un concept avec du coup. Un lycée pour jeunes à super pouvoir. Et dans ce lycée, il y aurait pas mal de versions adolescentes de personnages d'ici. Donc, aucune idée si c'est des personnages majeurs ou des seconds couteaux. Mais en tout cas, ce serait du coup une série comique qui est produite par, j'ai oublié son nom, Elizabeth Banks. C'est ça ?
Produite et dirigée, il me semble, c'est de la showrunner.
Dirigée aussi, carrément. Ça, je sais pas. En tout cas, c'est très... Ce serait du coup voilà, un truc sur la vie lycéenne avec des super pouvoirs en plus et sous l'angle plutôt comique. Donc ce sera de la comédie en 30 minutes plutôt que...
C'est High School Musical Super Hero.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est une sitcom.
Oui, bah c'est à peu près ça.
Ouais. Franchement, la dernière série en sitcom, c'était pas mal. Hein. C'était Powerless. Hein.
Ah, c'était bien. Cool.
Oui, mais là, c'est des ados.
Ah, bah, c'est des ados alors.
Je pense que ça peut donner.
Bah oui. Non, mais je pense que ça sera drôle. Mais
Clégane est optimiste si là-dessus.
Et tu vas avoir une grosse surprise à la prochaine news.
T'es sérieusement optimiste là-dessus ? T'es sérieux ?
Non, c'est bizarre que c'est bizarre qu'ils aient pas fait un projet plutôt Gotham Academy, tu vois. Parce que ça coûtait beaucoup moins cher à produire. Les gens, ça leur parle. Ils aiment bien. Il y a Batman, du coup, ils regarderont. La preuve, hein, tu mets Alfred dans le nom et ils regardent. Alors, si tu mets Batman, t'inquiète, tu vas regarder. Non, mais et du coup, à partir de là, je comprends pas. En plus, il y avait déjà un comics là-dessus. Le comics, c'est plutôt cool. C'est du young adult. Non, enfin, je sais pas.
Alors, la théorie de beaucoup de gens, c'est qu'en fait, DC Super Hero High sera un peu une version live action et plus généraliste de DC Super Hero Girls, en fait.
Ouais. Oui, on a un peu
fait,
plus
young adult. C'est ce segment-là qui est plutôt cherché.
Ouais, créer une continuité chez ceux qui ont commencé à suivre DC Super Hero Girls, etc. quand ils étaient plus jeunes.
Ouais, non, mais alors attends, DC Super Hero Girls, enfin, il y a une différence entre on fait une comédie et on fait Disney Channel, en fait.
Non, mais je sais, mais en gros, c'est un peu cette stratégie, mais je dis pas que ça, enfin, je trouve pas ça forcément bien, mais je pense que c'est la stratégie visée.
Ouais, non, mais c'est pas con, parce qu'ils s'adaptent au public qui a connu DC Super Hero Girls quand ils étaient très jeunes. Et maintenant, ils ont grandi, donc ils ont besoin de séries du même genre, mais qui s'adaptent à leur âge.
Je pense que, je sais pas si, je pense, on verra si ça marche, ça marchera. Après, c'est une série prévue pour les ados, je pense, donc ça.
Ouais,
le plus casse-gueule, c'est Strange Adventure.
Ah, carrément.
Parce que bon, Green Lantern, même si c'est de la merde, les gens y regarderont. Strange Adventure, bon, après, d'un côté, ils peuvent bénéficier du fait que les fans de Star Trek ont totalement, enfin, on va dire, pour la plupart, ont quitté le navire avec Discovery.
Mais non, ils sont tous emballés par Picard, là, c'est fini.
Ouais.
Oui, là, oui, mais franchement, ça fait... Enfin, il y en a plus. Discovery, il redonne sa chance pour ça, mais sinon, moi, ça fait depuis que ils ont lancé cette série que les fans, les Trekkies, crachent dessus et préfèrent regarder à raison The Orville. Donc voilà.
Je peux te dire qu'à la Comic-Con, il y avait du monde pour gueuler face à Picard... À Stewart.
Ah mais évidemment. Ah
ouais. Bah ouais.
Ouais, ok. Bon bah.
Ça leur fera un truc SF. Je pense qu'ils auraient dû. Je pense que c'est un mauvais bail et qu'ils auraient dû. Ils auraient dû plutôt adapter Astro City. Mais bon, c'est mon avis. Et que, parce que ça aurait coûté moins cher.
Ouais, je pense que j'aurais aimé voir ça, tu vois, personnellement.
Ça coûtait moins cher. C'est des histoires qui sont déjà. Enfin, tu sens que c'est des mini arcs scénaristiques. Ça se prêtait bien au truc. Bon, bref,
ouais,
on verra bien.
Moi, en tout cas, je donne un côté précieux et j'ai pas envie de le voir dévalorisé dans un autre médium, en fait, tu vois.
Bon, après, ça veut... Enfin...
Parce que voilà, ça c'est pour moi, hein, je te dis bien, mais...
C'est vrai, Berlanti fait que produire. Hein. S'ils veulent, selon qui est dessus, il ne fera pas. Regarde, genre, Berlanti, c'est un mec qui, quand il annonce un truc, il veut absolument accélérer les choses et faire un truc souvent qui n'est pas terrible. Mais si tu regardes bien Stargirl... T'as Geoff Johns qui a posé ses couilles, il n'y a pas touché. Hein. Stargirl, ouais. Ça fait on en entend parler. Oui, voilà. Dès qu'il y a des mecs un peu vénères dessus, ça moufte pas. Donc,
bon,
faut voir qui ils mettent dessus.
Là, vous avez un Sandman Theater pour Astro City si vous voulez. Est-ce que en plus ça serait pas mal? Vas-y.
À propos de Doom Patrol, visiblement, la série serait déjà même redonnée pour une saison 3 sur HBO Max.
Nice! Ça, ça serait cool.
En fait, il y a. Sur le trailer de HBO Max, visiblement. Donc, enfin, ça reste la théorie, il n'y a rien de prouvé, hein, mais. Qu'en fait, Doom Patrol est la seule série qui est annoncée avec plusieurs saisons d'office, quoi.
Ok. Mais les gens, ils ont pas mal accroché. Hein. Genre, j'ai des potes qui m'ont parlé de Doom Patrol, alors que. Enfin. Genre, les autres séries d'ici, rien à foutre. Enfin, même pas, ils étaient tentés de le regarder.
Ouais.
Les pubs ont bien marché.
Et puis, Swamp Thing n'a absolument pas marché, du coup, ça rajoute du budget pour Doom Patrol. Ouais. Non, mais il faut le dire, je pense que, genre, tout, il y a une grande partie, quand ils ont lancé Swamp Thing, ils se sont dit pourquoi pas, et finalement, il y avait tout ce budget qui était là, ils ont vu Doom Patrol marchait bien, ils se sont dit, bon, les gars, ils sont passés à 3 saisons.
Mais c'est dingue. Attends, Swamp Thing, c'était en juillet et j'ai déjà oublié l'existence de cette série.
Mais Swamp Thing aussi, les mecs, ils ont chié quand même parce que, enfin, en fait, alors, parenthèse, je vais très vite. D'un point de vue marketing, ça n'a aucun sens parce que normalement, t'attends que si tu veux dire qu'une série est annulée, t'attends vraiment et que tu sais que ça va être annulé. Tu vois, t'attends vraiment le dernier épisode pour dire, ben, on fera pas une saison 2. Là, ce qui s'est passé, c'est que dès le deuxième épisode de Division sur les 10, ils ont dit c'est mort, c'est terminé. Swamp Thing, il ira pas plus loin. Et ça, c'est super chaud parce que les gens, eh ben, parce qu'il y a du profit à se faire, il y a du temps d'audience, il y a des trucs à, enfin, tu peux toujours capitaliser sur un truc. Ben là, les mecs ont dit non. Du coup, les mecs qui ont vu 2 épisodes, ils ont dit bon, bah, ça ira pas plus loin, j'abandonne. C'est pas la peine.
Ils ont bien fait.
Oui, mais non, mais ça n'a aucun sens. Ce que je veux dire, c'est que marketingement, ça n'a pas de sens. Enfin, tu sauves les meubles. C'est l'idée. Normalement, tu vas jusqu'au bout, tu sauves les meubles et tu fais pas le con. Parce que là, il y avait rien à faire. Les créneaux de diffusion étaient déjà bouclés. T'avais juste à balancer l'épisode, rien dire. T'avais même pas besoin de payer des mecs pour la pub. Ça se faisait pas, c'est pareil. Mais arriver au 2e épisode, dire c'est terminé, on arrête, c'est du suicide économiquement.
Ok, bah alors, c'est bon. D'un autre côté, est-ce que c'est pas plus mal au final? Oui, vas-y.
C'est purement la série, mais juste pour informer que ce sera $15 par mois.
Ah.
Vous vous rendez compte?
C'est cher.
C'est cher pour le.
Il semble que ça se passe. Netflix, c'est beaucoup plus cher.
Je crois vraiment, quoi, ça veut dire.
Je pense que d'ici peu, on vous proposera un podcast sur la diversification des plateformes en ligne de diffusion parce que c'est compliqué.
Après, HBO, ça peut marcher hein, parce que c'est réputé pour avoir beaucoup de très bonnes séries.
Non, mais je dis pas que ça va pas marcher. Je dis juste que tout le monde fait la sienne et qu'à un moment donné, tu peux pas. Surtout à des tarifs de 15 balles.
Bah, c'est ça. Parce que Disney Plus coûte beaucoup moins cher. Enfin, toutes les autres plateformes coûtent beaucoup
Apple
moins cher.
Apple TV qui est sorti aussi.
Et qui coûte beaucoup moins cher aussi.
Ouais, en fait, Apple TV, à part Snoopy, je ne vois pas trop quoi regarder.
Non, mais on est en train de... Ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, il y a une grande ère téléchargement. Avec ces plateformes de streaming, on est arrivé à un petit peu fidéliser le public, tu vois, qui ne se disent pas... Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Je vais prendre mes trucs illégalement et ça ne me coûtera rien. Mais là, on est en train d'imposer une sorte de bipolarité qui consiste à dire « Bon, bah, je prends une plateforme, je me sens bien, je suis dans la légalité et je vais télécharger tout le reste.
» Hey, Blo, t'es parti sur ton podcast hors série là sur les plateformes.
Bah oui,
non mais là, non. On le fera plus tard si tu veux. Mais là, il faut qu'on avance un peu avec la news suivante. Sur,
news.
Sur le renouvellement de la série Pennyworth par Just qui va nous parler de la saison 2 de Pennyworth, parce que vraiment Pennyworth, il y en a qui l'ont regardé ici.
C'est la vie.
Encore sauté.
Il y a Blue aussi.
Attends, qui l'a vu? Qui l'a
moi.
Vu
moi et Blue, je pense.
Ouais.
Clegane, tu l'as pas vu?
Non, mais ça va pas.
Je me disais, parce que tu me disais la news suivante, tu vas pas y revenir. Je me disais, non, il a quand même.
Non, mais c'est l'autre, je pense. Ouais.
Ok, bon bah non, mais c'est pas. Non, mais voilà, je fais dans l'ordre que je veux, c'est bon. Non, mais et du coup, vous en avez pensé quoi de Pennyworth juste
franchement, c'était une bonne série.
Ok,
ça
d'accord.
Ça parle pas du tout de DC. Ça parle d'un personnage très sympathique qui vit en Angleterre. On rencontre certains personnages de DC comme Thomas Wayne et Martha Wayne.
N'essaye pas de le vendre en mode c'est DC. Arrête.
Non, c'est pas du tout DC. Par contre, c'est une très bonne série d'espionnage, une très bonne série. Les décors sont magnifiques.
Après, je donnerai mon avis.
Un truc... Ouais, vas-y.
Non, mais en gros, Pennyworth, c'est vrai.
La review, j'ai...
Ouais, c'est ce que je disais, c'est que dans la review, c'est que c'est une série finalement très correcte, ni plus ni moins. Mais en gros, si vous passez à un dimanche après-midi, vous savez pas quoi foutre, ça sera divertissant. Passer ça, c'est un truc assez feel good, mais on a un cœur de saison qui part totalement en couille avec des intrigues mystiques qui n'ont rien à voir là-dedans et dont tout le monde s'en branle.
J'ai pas compris, ouais.
Et on a un final qui est vraiment, qui me fait un peu peur, qui est d'un côté un peu marrant parce que ça redevient assez over the top. Et de l'autre côté, c'est Bruno Heller qui refait les carabistouilles qu'il a fait dans Gotham et qui nous épargne plein de moments what the fuck improbables. Donc à voir. Et après, la direction de la photo est vraiment pas mal. Et pour le budget qu'ils ont, c'est un minimum, c'est quand même assez crédible. Donc en gros, ça va. Mais si vous devez regarder une série, vous avez beaucoup d'autres choses à regarder que Pennyworth.
Non, franchement, le fil rouge se tient tout du long. Franchement, moi, il n'y a pas un épisode où je me suis dit, oh, on se fait un peu chier devant celui-là.
Il y a deux parties dans la série, en fait. Il y a les quatre premiers épisodes et après, il y a les autres.
Oui.
Et autant sur les quatre premiers épisodes, je suis plutôt content, tu vois. Ouais. Autant après, je trouve que ça se perd jusqu'à pendant trois. Ça dure 10 épisodes, donc ça va vite. Hein. Ça se perd pendant 3-4 épisodes où ça n'a aucun sens. Pour trouver des tueurs, ouais. On va chez des voyantes. Ça n'a aucun sens. Et pour trouver le tueur, et puis ça n'a aucun sens.
Oui, mais c'est pas mauvais.
Et après, il y a une sorte d'intrigue avec Thomas et Martha, où là, ça n'a plus de sens, en fait. C'est-à-dire que il y a un arc scénaristique où c'est mystique, mais là, c'est trop mystique, en fait. C'est même plus onirique, les mecs ont des pouvoirs, et il n'y a même pas de résolution à l'ensemble.
Ça sert à rien dans l'intrigue globale.
Ça sert à rien, c'est fuyons, parce que le gars, en fait, il a des pouvoirs, et on peut rien y faire, quoi. Enfin, c'est tout. Et ça favorise juste l'énorme PLS que prennent Martha et Thomas qui vont finalement du coup il faut bien qu'à un moment donné ils se retrouvent ensemble, hein. Ouais. Donc voilà,
là, j'étais dès que je voulais qu'elle sorte avec Alfred, moi.
Mais bon, après voilà, t'as les carabistouilles de Bruno.
Il allait se taper la mère de Bruce, quoi.
Je peux te le dire.
Après il y a les carabistouilles fascistes habituelles où là on est en mode c'est du fascisme et ça va, c'est des fascistes, mais il y a que dans le dernier épisode que tu réalises vraiment qu'ils sont fascistes parce que sinon ils sont gentil. En fait, les méchants sont tellement pitoyables qu'ils en viennent attachants. Et du coup, Candy, il est fasciste, t'es là en mode « Ouais, mais ouais, je sais, c'est vrai qu'il est fasciste. C'est vrai, mais personne n'est parfait. Il est quand même attachant, ce bonhomme. » Donc voilà, et à la fin du dernier épisode, ça va. Franchement, c'est dynamique, il se passe des choses. Et puis, à un moment donné, il y a un sadomaso qui sort d'un placard et qui poignarde un héros. Et là, j'ai fait « Attends, quoi ?» Donc voilà.
C'était bien.
En vrai, non, arrête. Ta gueule. Pour le coup, ta gueule. Le coup du sadomaso, non, ça suffit.
Putain, mais ça, tout ça, ça donne vraiment envie de revoir Gotham, tu vois. Tu te dis, ça me manque cette série.
Mais du coup,
moi, j'ai largement préféré ça à Gotham. Hein.
Ah non, mais je me dis, ils sont partis pour nous refaire une deuxième Gotham, parce que là, Gotham, la saison 1, c'est exactement pareil.
Ça, ouais.
C'est exactement Alex, pareil. Comment tu te dis ça marche
Alfred,
bien
c'est un. Alfred, c'est un putain de lover. Il doit se taper 4 meufs différentes dans la scène. C'est ce que
je... Oui.
Ouais, mais j'imagine tellement Alfred qui ramène le plateau à Batman le matin avec cousu sur un petit mouchoir blanc. J'ai niqué ta mère. Et Bruce, je vais trouver là, celui qui a fait ça.
Ouais. Et d'ailleurs, pour en revenir à la news, il y a une saison 2 d'annoncée de 10 épisodes.
Là, il va se passer. Là,
c'est quand même étonnant qu'il y ait une saison 2.
Bah franchement, quand tu vois le cliffhanger à la fin, oui, enfin tu dis qu'ils peuvent quand même faire une saison 2. Hein. Bah il y a toujours des fascistes.
Mais... Déjà, vu la chaîne sur laquelle c'était... déjà, c'était pas sûr qu'elle survive jusqu'à la fin de la première saison.
Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais bon, justement, là, ils ont trouvé leur public. Et puis la deuxième saison, parce que franchement, si vous pensez... Enfin, la première saison, c'est en mode serious business. Après, ça devient totalement con. Et ça revient sur le business, action, aventure à la fin, à part le sadomaso. La deuxième saison, vu comme c'est parti, l'ambiance, c'est Kingsman, en fait. Hein. Vraiment, c'est une sorte de comédie un peu bizarre. Ça va être... bon.
Par contre, on est reparti sur des reviews, hein, vous savez.
Non, mais j'ai l'impression aussi, mais en fait, ça m'intéresse parce que je me dis, mais Peignoir, c'était tellement la série sur laquelle j'aurais jamais misé que ça me surprend. Et d'autant plus que Just la défend.
Non, mais regarde.
Ça m'épouse. Ouais.
Mais l'intro, mais moi aussi, je la défends. C'est juste que Just, il dit que c'est très bien. Moi, je te dis, calme-toi.
Ouais. Non, c'est sûr, c'est pas la meilleure série de l'année.
Moi, je dis que c'est correct et divertissant. Voilà.
Oui, okay. Non, mais il a raison, il a raison.
Bah, bizarrement, vous me donnez envie de la regarder quand même. Quoi.
Par contre, tout le monde sera d'accord. Enfin, tu verras, le générique d'intro, il tue. Vraiment, okay, la gueule de l'opening, franchement, ça change des trucs à la Cibelune Gotham où t'as juste un titre ou Titan. Avec ouais. Juste un titre, tu vois, où il y a un petit effet dessus et c'est terminé. Non, là, il y a un vrai générique et il claque. Il est putain de beau visuellement.
Sherlock Holmes. C'est bien.
Et donc, pour finir ce podcast, on va retrouver Clegan qui voulait nous parler de l'annonce
dans les studios.
Superman et Lois. Alors, explique-moi cette surprise, parce que j'imagine que cette série-là, tu l'attends, et c'est ça la surprise.
Bon, attendre. Calmons-nous.
Ne me dis pas que t'es emballé par une série CW, s'il te plaît.
Calmons-nous bien aussi. Non, je dis juste que je pense que tu vas le regarder, parce que... parce qu'en les comics, on nous a retiré la vie de famille de Lois et Clark. Et cette série va proposer une Lois et un Clark père de famille, parents plutôt. Et j'ai envie de voir s'ils arrivent à faire quelque chose de bien. Et donc je me dis, si c'est bien, ça pourrait être cool quand même. Et en plus, j'ai déjà regardé un tout petit peu épisode où ce Superman apparaissait dans Supergirl, et genre un tout petit peu, il était pas trop mal.
Moi je l'ai détesté.
Ah, il a quand même un petit peu une gueule du mec qui regarde un plat de pâtes chauffé. Hein.
Mais oui, il regarde le micro-ondes en permanence. C'est quand la pause déjeuner. Mais non, mais ça je comprends pas comment ça.
En fait, il est attachant, tu vois. Il y a un petit côté parodique où le gars il a vraiment la gueule, mais c'est du Superman en mode ouais. C'est moi, je suis un boy scout. Je vais sauver le chaton dans l'arbre.
Non, mais en vrai, pour avoir vu des tas de... Enfin, quasiment... Ouais, toutes les séries live de Superman, c'est-à-dire celle des années 50, mais celle-là, elle est intouchable. Et Superboy dans les années 80. Superboy dans les années 80, c'était vraiment pas fameux, mais il y avait un minimum de cohérence par rapport au produit de base, en fait. Ouais, c'était une sorte de Smallville plus fidèle aux comics que Smallville, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est une sorte de Lois et Clark mélangé à Smallville.
Ouais, mais d'un côté, on a la chance d'avoir au moins un tiers des épisodes en mode Superson. Enfin, avec un Superson. Et j'aimerais bien le voir, tu vois. Parce qu'autant, Lois et Clark, j'en ai rien à battre. Mais qu'ils aient le gamin qu'ils ont, ça peut être fun. Petit John qui court partout, qui lance des lasers avec ses yeux...
Voilà. Non, mais là, toi, t'es parti en mode Superman et Lois, ça va être une sorte
de... Ils auront un petit chien. Avec Crypto, il y aura peut-être Crypto. Ça sera trop bien.
Un petit caniche.
Il y aura Tati Supergirl aussi. Il y aura Comet.
Non, mais là, vous
il arrivera. Supergirl qui arrivera sur le dos de Comet.
Ils feront pas ça.
Ils partent trop loin.
Il y aura que des triangles amoureux. Arrêtez. Est-ce que Superman va se taper Lois ou Wonder Girl?
Ils ont
putain, ça serait tellement qu'ils sortent avec Wonder Woman.
C'est une série sur Lois et Clark, parents. Sur eux et leur enfant.
C'est comme... Si le gère en mode Black Lightning, ça peut être pas mal. Le problème, c'est qu'ils vont pas faire ça. On le sait. Donc, on verra. Franchement, si c'est comme Black Lightning, ça peut être cool. Le problème, c'est que c'est Superman et que, bon... C'est bien gentil d'aller réparer des toits et s'occuper d'une grange, mais va falloir faire des trucs, quoi.
Yeah, bah, le gars, c'était bien de ma gueule. Oui, vas-y.
Je serais quand même là Day One, parce que personnellement, quand j'étais petit, Lois et Clark, les aventures de Superman, c'était ma série culte. Et oui, je l'avoue, voilà, je sors un dossier ce soir.
Non, mais t'es pas... franchement, c'est pas un dossier, parce qu'il y en a des tas qui sont comme ça, et c'est pareil pour, en fait, j'ai envie de dire comme moi, qui ont... découvert les films Batman avec Batman et Robin, et c'est assez triste à dire, mais ça, c'est un peu le...
C'est enfin, moi, personnellement, Lois et Clark m'a introduit à tout l'univers de Superman quand j'étais gamin, et si j'aime Superman, il faut avouer que c'est quand même aussi un peu à cause de cette série, quoi.
Ouais, en plus, on reverra Terry Hatcher.
Ouais.
Ça va être bien.
Et du coup, moi, je regarderais juste par ce côté un peu, j'aimais Lewis et Clark quand j'étais petit, donc je suis client déjà, tu vois. Je suis un petit peu déjà vendu par le truc parce que c'est un peu le côté. Tu vois, j'ai marché sur un pavé, j'ai mangé une Madeleine de Proust, tu vois. Ça me fait retomber dans mon enfance. Et même si ce n'est pas les mêmes acteurs, la même série, bah, ça m'évoque ces choses-là. Donc j'ai envie de le voir. Je dis pas bah, que
j'espère pour toi que ça aura le même goût, hein, parce que.
Mais.
C'est trop bien qu'il vit dans une sorte à la périphérie de la ville, dans une banlieue, tu vois. Et ensuite,
non, mais, Loïs. Il ne sera pas Superman à Toulon, laisse tomber.
Non, mais on pourrait pas aller dans une banlieue, dans genre une sorte de Desperate Housewife.
Ouais.
Et là, en fait, tu apprends que le mari de la voisine, en fait, c'est Brainiac Undercover, qui vient analyser des kryptoniens. Et dans son grenier, il garde des mondes, mais réduits. Ah, oh, ça serait tellement bien. Mais... Oh, ça serait trop bien.
Non, mais en vrai, t'aurais dû être scénariste pour la série annulée, la Superman Family.
Ça aurait été trop bien. Franchement, qu'est-ce que ça serait marré.
Non, mais en vrai, t'as des projets fous. Non, mais faites une pétition pour lancer une série Superman écrite par Blue. Je suis client.
La prochaine chronique sur DC Planet.
Petit crossover avec Krypton. Oh là là, ça serait tellement bien.
Le Brainiac de Krypton qui rencontre le Brainiac de Supergirl, ça sera pas mal. Quelqu'un veut revenir sur Superman et Lois ou...
Non.
Ah, plastique, non
ce qu'on avait à dire.
Non, j'ai dit que j'étais client Day One, c'est tout. Ça suffira.
Ok. Bah, honnêtement, je vois pas tellement... J'ai du mal à l'attendre, mais d'un autre côté, je me dis que peut-être que ça arrivera quand même à m'intriguer un minimum quand même.
S'il ramène le casque de Desperate Housewives, c'est 19 sur 20.
Voilà, c'est plus que 20 sur 20 et ce serait plutôt drôle, ouais.
Bon, là, ils peuvent donc, pas parce qu'il y en a une qui est en prison, mais ça va aller.
Les gars, ils s'arrêtent jamais de parler. Donc, sur ce, et là, c'est la fin. On vous invite à suivre le podcast sur toutes les plateformes dédiées, à y laisser la note qu'on mérite parce que ça, bah, j'ai envie de dire, ça regarde que vous, c'est à vous de voir. Et on vous donne rendez-vous pour dans 2 semaines pour un nouveau podcast classique. Et en fin de mois pour le prochain podcast review. Et on vous dit à la prochaine. Salut!
Au revoir!
Attends, on est noté?